Bonjour et bienvenue dans Santé Cheval par Eponavette, le podcast qui vous parle de la santé de vos chevaux. Je suis Emma Paul Duboitaine, vétérinaire équin en région rennaise. J'ai rejoint Eponavette il y a quelques mois et je vous propose de venir explorer avec moi la santé de vos chevaux. Aujourd'hui, troisième épisode de la série sur les maladies infectieuses des équidés au sujet de la rhinopneumonie. Une maladie infectieuse dont on entend beaucoup parler ces derniers temps avec des épidémies de plus en plus fréquentes et des conséquences parfois dramatiques. La rhinopneumonie, qu'est-ce que c'est ? Donc la rhinopneumonie, c'est une infection virale qui est causée par un herpès virus, abrégé EHV, pour Equine Herpes Virus, dont il existe plusieurs souches potentiellement pathogènes chez le cheval. 5 types d'herpès virus ont été identifiés chez le cheval, alors on va faire dans l'ordre. D'abord EHV1, qui est pathogène et qui est responsable de maladies respiratoires, nerveuses et d'avortement. Puis EHV2, qui est régulièrement retrouvé dans les voies respiratoires des chevaux sains, qui est donc considéré comme relativement peu à non pathogène. Ensuite, on a EHV3, qui correspond au virus de l'exanthème coïtal. Donc c'est une maladie qui touche l'appareil génital des chevaux, mâle ou femelle. C'est contagieux, mais on n'en parlera pas plus aujourd'hui. On a ensuite EHV4, qui est pathogène et qui est responsable de maladies principalement respiratoires. Et enfin EHV5, qui est, comme EHV2, retrouvé dans les voies respiratoires des chevaux sains, qui est donc considéré comme relativement peu pathogène. Néanmoins, EHV5 est associé à une maladie respiratoire certes très rare, mais très grave. Il s'agit de la fibrose multinodulaire équine. La rhinopneumonie stricto sensu, ça correspond à la forme respiratoire d'herpès virus, donc qui peut être causée par EHV1 ou EHV4. Cependant, on parle couramment de rhinopneumonie pour décrire la maladie respiratoire, nerveuse ou abortive, qui peut être causée par l'infection par l'herpès virus de type 1 ou 4. La contamination, elle est possible par l'inhalation de virus qui est excrété donc dans le jetage nasal ou par la toux des chevaux malades ou simplement excréteur. Les sécrétions vaginales, le placenta et le fœtus lors d'avortement sont aussi des sources de contamination majeures. Le cheval, il s'infecte par contact direct avec ces substances, mais aussi par contamination de son environnement ou par transmission via des vecteurs, le soigneur, du matériel. Le virus, il colonise alors les voies respiratoires supérieures où il se réplique, donc il se multiplie, et il est excrété à nouveau. Et l'infection, elle s'arrête le plus souvent ici, au niveau des voies respiratoires supérieures. Mais il est possible que le virus atteigne la circulation sanguine par l'intermédiaire des cellules immunitaires où il va se répliquer à nouveau. Donc là, on parle de virémie, donc de présence et de multiplication du virus dans le sang, ce qui lui permet ensuite d'atteindre d'autres sites d'infection, le système nerveux central et ou l'utérus et le placenta chez les juments gestantes. Quelle que soit sa forme, la rhinopneumonie, c'est une maladie très contagieuse et elle peut rapidement se propager à un effectif entier. Donc dans une même écurie, lors d'une épidémie de EHV1, qui est une forme mixte, des chevaux peuvent présenter des formes différentes de la maladie, c'est-à-dire que certains chevaux peuvent avoir une forme respiratoire, d'autres une forme nerveuse, et on peut avoir des avortements sur les juments gestantes au cours de l'épidémie. Certains chevaux restent porteurs sains, ils hébergent et excrètent le virus, mais ils n'expriment aucun symptôme. Ceux-là sont assez dangereux parce qu'on peut avoir du mal à les détecter et ils peuvent contribuer à la propagation de l'infection. Après l'infection, les herpès virus peuvent rester en dormance dans l'organisme du cheval, qui n'exprime alors aucun symptôme, mais qui peut réactiver la maladie en cas de baisse d'immunité générée par un stress par exemple. Ça peut être un transport, participation à une compétition, une autre maladie, etc. Comment diagnostiquer et traiter la rhinopneumonie ? L'infection d'un cheval par un herpès virus se traduit le plus souvent d'abord par de la fièvre, avec de l'hyperthermie, de l'abattement et une baisse d'appétit. Donc ça, c'est commun à de nombreuses infections virales et bactériennes. Dans la forme respiratoire, on observe du jetage nasal qui va être séreux à plus ou moins purulent, parfois un larmoiement et une toux sèche associée au développement donc d'une rhinopharyngite, c'est-à-dire d'une inflammation du pharynx. Elle ressemble de très près à la grippe, on a typiquement un syndrome grippal. Les jeunes chevaux, ils sont plus à même de développer une forme respiratoire. Les signes cliniques, ils sont très variables d'un individu à l'autre. Les chevaux adultes, immunisés ou vaccinés, ils présentent le plus souvent des symptômes très atténués, voire aucun symptôme. La forme respiratoire, elle est rarement mortelle, avec néanmoins des complications possibles, par exemple avec des surinfections bactériennes, mais les chevaux y guérissent en général en 1 à 3 semaines avec du repos. Dans la forme neurologique, les chevaux atteints développent des symptômes dits nerveux associés au développement d'une myéloencéphalite, c'est-à-dire une inflammation du cerveau et de la moelle épinière. On peut donc observer de l'ataxie, donc des difficultés à se déplacer, voire à se tenir debout, des paralysies, des difficultés à uriner, voire à déféquer. À noter que ce sont les chevaux adultes qui sont les plus à même de développer une forme neurologique de la rhino, en particulier chez les chevaux de plus de 20 ans. Dans la forme abortive, on peut observer des avortements qui surviennent le plus souvent dans les derniers mois de gestation, entre le 9e et le 11e mois, mais aussi des naissances de poulains faibles ou mort-nés. La jument, elle présente le plus souvent aucun signe précédant l'avortement, et à l'autopsie du fœtus, les lésions caractéristiques sont observables, en particulier au niveau du foie. Pour diagnostiquer la rhinopneumonie, c'est l'ensemble des éléments fièvre plus symptômes respiratoires et ou nerveux et ou des avortements, plus la contagiosité au sein d'une écurie qui vont nous mettre sur la piste d'une rhinopneumonie. Donc dans ces cas-là, on va réaliser un écouvillon nasopharyngé chez les individus malades dans le but d'identifier avec précision l'agent pathogène. Donc pour ça, on utilise la méthode PCR qui permet d'identifier rapidement s'il s'agit de grippe ou de rhinopneumonie lorsque les symptômes sont uniquement respiratoires, étant donné que ces deux maladies peuvent se ressembler énormément. En attendant les résultats d'analyse, la prudence est de mise et il convient de mettre en place des mesures de biosécurité pour limiter l'extension du foyer. Les chevaux malades sont mis au repos, isolés, ils requièrent une surveillance quotidienne avec le moins d'interventions possible néanmoins, et en cas de fièvre, le vétérinaire peut prescrire et administrer des anti-inflammatoires. Des antiviraux peuvent être prescrits afin de limiter la gravité des symptômes respiratoires ou nerveux chez les chevaux atteints. Leur effet, il est bien plus important en prévention sur des chevaux qui ne sont pas encore infectés dans un contexte d'épidémie. Les antiviraux, ils permettent de réduire l'excrétion du virus, donc ils contribuent aussi à limiter le risque de contagion de la maladie. Seul bémol, mais pas des moindres, leur coût qui s'élève à plusieurs centaines d'euros pour le traitement d'un cheval. Donc quand on a une écurie entière à soigner, vous imaginez bien que c'est pas évident. Puisqu'il s'agit d'une maladie virale, les antibiotiques ne sont pas indiqués dans le traitement de la rhinopneumonie. Néanmoins, ils peuvent être utilisés en cas de complications bactériennes sur les formes respiratoires en particulier, qui peuvent survenir préférentiellement chez des chevaux immunodéprimés. Dans le cas de la forme nerveuse, des mesures de soutien particulièrement lourdes peuvent être nécessaires en fonction de la gravité de l'atteinte neurologique. C'est une forme qui est parfois mortelle, en particulier lorsque les chevaux ne sont pas capables de se tenir debout et qu'il n'est pas possible de les suspendre en harnais. La récupération est parfois incomplète et les chevaux peuvent garder des séquelles s'ils survivent. Comment se prémunir de la rhinopneumonie ? Donc c'est une maladie très contagieuse, comme la grippe et la gourme. L'incidence au niveau d'une structure équestre, elle peut être limitée par la mise en place de mesures de biosécurité, donc la quarantaine en particulier à l'introduction de nouveaux chevaux, et puis toutes les mesures de gestion habituelles au quotidien, le circuit de soins, etc. etc. À voir dans le podcast sur la biosécurité. Il existe deux vaccins pour la protection des chevaux contre la rhinopneumonie. L'un contient des antigènes de HV1 et 4, l'autre uniquement de HV1. Donc pour rappel, la forme respiratoire elle est causée majoritairement par EHV4 et dans une moindre mesure par EHV1. La forme abortive elle est causée majoritairement par EHV1, donc avec des pertes parfois importantes lors d'épidémies en élevage. Donc c'est une préoccupation majeure dans un contexte d'élevage, EHV1. Et la forme nerveuse, aux conséquences parfois dramatiques, aussi bien en termes de mortalité, de séquelles, mais aussi d'engagement humain et financier, elle est causée à ce jour uniquement par EHV1. C'est donc EHV1 que l'on cible principalement dans le cadre de la vaccination, étant donné l'impact à la fois économique, mais aussi la gravité de cette maladie. Les vaccins y permettent de diminuer la sévérité des symptômes et la durée de la convalescence pour la forme respiratoire. Pour la forme abortive, bon, ils permettent de réduire le risque d'avortement causé par EHV1 pour les juments gestantes. En revanche, leur effet, il n'a pas été évalué sur la forme neurologique. Bon, ils permettent aussi de diminuer l'excrétion virale et donc ils contribuent à réduire la contagion entre individus et donc l'extension de l'épidémie. Le protocole vaccinal recommandé à ce jour, c'est une primo-vaccination en deux injections espacées de 1 à 2 mois maximum. Ensuite, on a une troisième injection de primo-vaccination entre 4 et 6 mois suivant la deuxième injection. Et ensuite, on a un rappel tous les 6 mois à 1 an maximum pour maintenir l'immunité. Donc ça dépend du type de vaccin, du contexte, du mode de vie du cheval, s'il va en compétition, et aussi des obligations réglementaires. Pour les juments gestantes, afin de limiter le risque d'avortement en fin de gestation, il est recommandé de vacciner au 5e, 7e et 9e mois de gestation. En cas d'épidémie de rhinopneumonie dans une écurie, une injection de vaccin anticipée sur le protocole habituel est recommandée pour les chevaux déjà vaccinés, mais dont le dernier appel remonte à plus de 6 mois, afin de booster l'immunité et d'optimiser la protection. Pour les chevaux non vaccinés, il est tout à fait possible de démarrer un protocole de primo-vaccination, mais l'immunité, elle mettra plusieurs semaines à se mettre en place, ce qui limite donc son effet pour l'épidémie en cours. La vaccination, elle n'est efficace qu'à l'échelle collective et malheureusement assez peu efficace à l'échelle individuelle. Donc la protection d'un cheval dans une écurie, elle repose sur la vaccination de tous les chevaux de l'écurie ou presque, et pas seulement de l'individu seul. À ce jour, le taux de vaccination contre la rhinopneumonie, il est faible, d'environ 30%, alors que le taux de vaccination est de plus de 80% pour la grippe. On estime qu'il faudrait atteindre les 70 voire même 80% de chevaux correctement vaccinés pour atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective, qui permettrait de limiter significativement la circulation et donc l'impact de cette maladie en France. Les protocoles vaccinaux évoluent en France et ils visent à renforcer la vaccination contre la rhinopneumonie avec, à partir de l'année 2026, l'obligation de vaccination pour les chevaux concourant en catégorie amateur, en plus des catégories pro, et bien sûr des chevaux de course hein, pour qui cette vaccination est déjà obligatoire depuis pas mal de temps. A noter que l'impact économique d'une telle maladie dans une structure équestre peut très largement dépasser le coût de la vaccination des chevaux. Alors pour protéger vos chevaux et les autres, faites le choix de la vaccination. Pour conclure sur la rhinopneumonie, il est important de retenir qu'il existe plusieurs formes qui sont causées par des virus différents avec des répercussions différentes également. On a d'un côté EHV4 qui est responsable essentiellement de formes respiratoires, qui est souvent peu grave, un gros rhume, hein, mais tout de même très contagieux. Elle est préoccupante surtout pour les centres d'entraînement et les écuries de compétition, où on a pas mal de jeunes chevaux et qui sont en particulier plus exposés par rapport aux infections virales, avec en conséquence des chevaux qui vont être mis au repos forcé et un isolement, parfois long, mais nécessaire à la gestion de ces épidémies, donc ça va perturber l'activité économique de ces structures. Mais en termes de gravité et de mortalité, c'est relativement peu grave et très très rarement mortel. De l'autre côté, on a EHV1, qui est plus polyvalent, qui peut causer des troubles respiratoires, neurologiques et des avortements, avec donc des conséquences parfois beaucoup plus graves lorsqu'il s'agit de la forme nerveuse. Elle nécessite souvent une prise en charge beaucoup plus intensive et onéreuse, avec un risque de mort ou de séquelles pour le cheval plus important. Dans un contexte d'élevage, les avortements et donc la perte des poulains à naître entraînent également des pertes économiques non négligeables. Pour mieux protéger votre cheval et l'ensemble des chevaux de ces maladies, pensez à demander conseil à votre vétérinaire et surtout à vacciner.